Les parts actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Parts Actualités. Hélène Denis qui vous accompagne en ce 12 décembre 2017 et en manchette aujourd'hui votre dossier médical à l'écran. Enquête de l'IRIS sur l'accès à la vie associative pour les personnes en situation de handicap, des enfants autistes à la rencontre du Père Noël. Théo et son école secondaire relèvent les défis de l'accessibilité. Et Airbus soutient l'emploi de personnes en situation de handicap. En entrevue, je reçois Dora Julie, agronome et entrepreneuse, qui vient nous parler de Pascalina, une entreprise de jus qui crée des partenariats avec des entreprises adaptées. Et aussi Suzanne Beaulieu, directrice de la gang à Rambrou, pour nous parler du spectacle Le fantôme de Cartierville. Et les billets sont en prévente jusqu'au 15 décembre. Dans le soleil, votre dossier médical à l'écran, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, s'apprête à lancer un portail baptisé Carnet Santé Québec. Avec ce nouvel outil, les Québécois devraient avoir accès à des informations sur leur dossier médical partout et en tout temps. Ils pourront voir à partir de leur écran d'ordinateur, de leur tablette ou de leur téléphone intelligent les médicaments reçus en pharmacie au cours des 5 dernières années, les résultats d'une prise de sang, d'un test d'urine ainsi que ceux d'autres types de prélèvements. Ils pourront aussi consulter les rapports d'examen d'imagerie médicale les concernant, radiologie, résonance magnétique, échographie, mammographie et autres. Gaétan Barrette a annoncé hier à Montréal que ce nouveau site Internet sera disponible au début du mois de janvier dans 2 régions du Québec pour rodage. Il s'engagera de plus à le rendre accessible à tous les citoyens de partout au Québec d'ici l'été prochain, selon les informations du Soleil. Les Québécois pourront donc l'utiliser avant les prochaines élections générales. Des spécialistes travaillent sur ce projet depuis des mois. Rien n'avait filtré jusqu'ici. Carnet Santé Québec est un nouveau service gouvernemental qualifié de concret par ceux qui sont dans le secret. Les résultats des prélèvements médicaux et les rapports d'examen d'imagerie médicale ne seront pas placés sur le site de Carnet Santé Québec dès qu'ils seront prêts ou qu'ils seront produits. Un laps de temps de quelques jours s'écoulera. Dans l'autrejournal.info, enquête de l'IRIS sur l'accès à la vie associative pour les personnes en situation de handicap. Le 4 décembre dernier, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome a dévoilé les résultats d'une recherche menée par l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, sur l'accès à la vie associative pour les personnes en situation de handicap dans le mouvement d'action communautaire autonome. La recherche s'appuie sur un sondage réalisé entre le 27 juin et le 22 août 2016 auprès de 1058 organismes communautaires au Québec. La sélection des organismes s'est effectuée selon une méthode aléatoire, c'est-à-dire que le questionnaire était auto-administré via Internet par les organismes communautaires. 196 organismes ont rempli le questionnaire pour un taux de réponse de 18,4%. Les résultats du sondage démontrent que pour les organismes ne représentant pas des personnes en situation de handicap, les formes d'accommodement les plus effectuées sont l'accessibilité physique permanente de l'immobilier, 23,3%, le transport, 20,2%, et l'accessibilité physique ponctuelle de l'immobilier, 19,2%. Alors 3, c'est le 2/3 des accommodements. La recherche présente les différents types d'activités de vie associative dans lesquelles il y a des accommodements. Chez les deux types d'organismes, les activités principales sont les activités sociales et les assemblées générales. Quelles sont les raisons qui font en sorte que des organismes communautaires n'offrent pas certains accommodements? La recherche présente trois raisons pour lesquelles des accommodements n'ont pas été effectués. La plus courante est le manque d'accès à une ou des ressources d'adaptation. La seconde est le manque de ressources monétaires. Et la troisième est tout simplement parce que ce n'était pas prévu. Et je rejoins maintenant par téléphone Dora Djlouli, agronome et entrepreneuse, et elle nous parle de Pascalina, une entreprise de jus, qui crée des partenariats avec des entreprises adaptées. Bonjour, Madame Djlouli.
Oui, bonjour Hélène, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci. Alors, vous nous parlez de quel endroit?
D'Ottawa.
D'Ottawa. Est-ce qu'il neige chez vous?
Oui, elle n'a pas arrêté depuis le matin.
Alors, heureusement qu'il y a le téléphone pour qu'on puisse se parler. Madame Djlouli, comment vous vous êtes intéressée aux questions d'accessibilité universelle?
Très, très bonne question. D'abord, merci de m'avoir invitée à votre émission, que je félicite pour cet élan à promouvoir l'accessibilité pour tous.
C'est bien gentil.
Merci. J'ai eu la chance, en fait, d'y participer au sommet mondial Destination pour tous à titre de présidente de Solidaire International.
Le sommet mondial Destination pour tous que Kirol avait mis sur pied, hein? Il y a déjà 4 ans, c'est ça?
C'était en 2014, oui, exactement.
Oui, ça va bientôt faire 4 ans.
J'ai eu la chance d'y participer à titre de présidente de Solidaire International, c'est l'abréviation de Solidarité pour le développement international. Ce fut une BNL canadienne à charte fédérale que j'ai eu la chance de cofonder au lendemain de la révolution du jasmin grâce à une volonté de la diaspora tunisienne canadienne et aux amis de la Tunisie. Lorsque nous avions établi les axes stratégiques d'intervention dans notre zone cible, étant l'un des domaines d'intervention, fut le tourisme durable, compte tenu du poids que cette industrie dans la balance économique. Ce qui m'a personnellement surpris était le fait qu'on s'attendait que les enjeux de durabilité du tourisme en Tunisie étaient d'ordre environnemental et économique. La composante accessibilité touristique fut la principale. Je m'explique. C'est en fait à travers une mission d'investigation sur terrain que nous avons organisée en Tunisie en partenariat avec une ONG tunisienne qui s'appelle le Club UNESCO Alesco pour le développement durable et les acteurs locaux du tourisme, y compris le secteur privé, les fédérations, les coopératives, que nous avons appris que le besoin du pays en matière de tourisme durable était d'inscrire les établissements touristiques dans une démarche d'accessibilité. Et donc, nous avons eu en conséquence l'idée d'organiser le premier atelier en Tunisie en juin, c'était en juin 2014, oui, qui a pu réunir pour la première fois en Tunisie les acteurs impliqués, non seulement du tourisme directement, mais aussi d'autres ministères, à savoir le ministère des Affaires sociales, le ministère du Développement international, les partenaires techniques et financiers, les ministères de logistique, pour parler en fait de l'état de l'accessibilité à l'époque en Tunisie. Et nous avons eu la chance d'avoir eu le soutien à l'époque de Son Excellence Sébastien Beaulieu et son équipe, qui était l'ambassadeur du Canada en Tunisie, qui nous a soutenus et honorés par sa présence. Et donc c'est dans cette continuité de cette démarche que ma participation au sommet mondial Destination pour tous s'inscrivait.
Oui, je vous écoute.
Oui, en fait, vous savez, le sommet mondial a dégagé et simulé en moi une vive envie, je dirais, vouloir contribuer de façon efficace et directe à promouvoir un monde pour tous. Ma perception à l'époque du monde avait changé, je dirais plutôt, il a confirmé que promouvoir un monde pour tous n'est plus un choix. C'est une question de survie, aussi bien sur le plan social que économique. Mmh. Comme vous savez, le sommet mondial Destination pour tous fut la première initiative à l'échelle internationale initiée par Kerrul en collaboration avec l'ENAT, le European Network for Accessible Tourism.
Il faut dire que Kerrul, c'est un organisme québécois de tourisme accessible.
Oui, oui. C'est l'organisme qui a milité depuis les années 70 à promouvoir l'accessibilité au Québec, au Canada, et c'est une référence mondiale.
Oui.
Et voilà, ils ont organisé ça avec l'OMT, en partenariat avec l'OMT, et ils ont réuni des acteurs internationaux de plus de 360 participants qui venaient de 31 pays, imaginez l'ampleur, et la déclaration « Un monde pour tous » a été adoptée à la conclusion de l'événement. Ce dernier a mis le doigt sur les enjeux de l'accessibilité et aussi ce fut un carrefour d'échanges, d'histoires de succès, de réussite, des pratiques et des efforts à l'échelle de la planète et surtout ce qui reste à faire. Et comme je suis plutôt orientée vers le côté terrain, c'était ce point-là à qui je considérais beaucoup d'attention.
Alors, Madame Julie, je vous arrête. Vous êtes une femme d'affaires aguerrie de Gatineau. Vous êtes aussi professeure à l'Université d'Ottawa. Vous avez fondé une entreprise de jus santé dont les profits iront en partie à des projets visant l'accessibilité. Et vous souhaitez associer un projet à un produit de Pascalina. Qu'est-ce que vous avez en tête? Parce que là, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais vous permettre de répondre. Et puis après ça, je vais être obligée de vous dire bonjour.
OK.
À la prochaine.
Oui, oui. On aura l'occasion de se parler,
oui,
certainement.
Oui, ça c'est
sûr. En octobre 2014, à ma participation au sommet, je venais tout juste de cofonder Pascalina Juice. Nous complétions à l'époque nos recherches de développement pour mettre en place nos produits. Nos défis à travers cette organisation étaient de mettre la responsabilité sociale au cœur de notre modèle d'affaires. Donc, il s'agit de la composante santé du consommateur, le choix des techniques et des procédés respectueux de l'environnement, mm-hmm, et surtout de contribuer à une cause sociale et afin de boucler les trois boucles de développement durable. Et lors des ateliers du sommet mondial, une idée m'était spontanément venue en tête, c'est que je remarquais surtout qu'il y avait absence de partenariat direct du secteur privé. On parlait de partenariat entre les OBNL et le secteur public, mais il n'y avait pas d'implication directe des entreprises privées pour, mmh, soutenir cet élan de promouvoir un monde pour tous. Et donc, je pensais à une seule chose à l'époque, c'était comment Pascalina Juice pourrait aider ou comment pourrons-nous créer une synergie permettant de contribuer à un monde pour tous. Et dès lors, j'étais déterminée pour rendre ce souhait possible.
Non, mais c'est parfait, Madame Julie. Je ne peux pas vous laisser plus de temps parce qu'on a déjà dépassé notre temps, mais peut-être fermer la boucle en quelques secondes?
Oui, bien sûr.
Oui, oui. Alors, votre partenariat, ça fonctionne bien?
Là, ce que nous avons pu en mettre en place, c'est vraiment un partenariat avec une entreprise de l'économie sociale qui s'appelle Larou. Mm-hmm. Comme vous savez, au départ, le coût du produit, il est très élevé. Donc, déjà arriver à couvrir ces coûts est déjà un défi en soi. Ce que j'ai pu mettre en place, c'est un partenariat avec l'entreprise d'économie sociale Larou qui sont une entreprise qui intègre les personnes à capacité physique restreinte.
Bon, alors, parfait. Est-ce que vous avez un site Internet si on veut avoir plus d'informations parce que je dois vous dire bonjour?
Oui, c'est www.pascalina.ca.
Parfait. Et puis, vos jus sont sur les tablettes de quelques commerces, dont Métro, entre autres. On va les découvrir. Pascalina Dora Djlouli, agronome et entrepreneuse et passionnée de ce qu'elle fait. Merci beaucoup pour cette entrevue.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Des enfants autistes à la rencontre du Père Noël, des enfants autistes de l'Abitibi-Témiscamingue ont eu un accès privilégié au Père Noël cette fin de semaine pour une deuxième année. Les promenades du cuivre de Rouyn-Noranda et la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue ont conjointement fait vivre une meilleure expérience des fêtes aux enfants atteints de ce trouble neurologique. Gabriel Bédard était heureux de sa rencontre avec le Père Noël. Son père, Tommy Bédard, est le directeur général de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue. Depuis l'an dernier, son organisation collabore avec les Promenades du Cuivre pour offrir aux enfants la possibilité de rencontrer le Père Noël. Savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quoi les particularités d'un enfant autiste. Ce n'est pas tous les enfants qui aiment se faire toucher. Il y en a qui sont non-verbaux, il y en a qui peuvent faire des sons, ça peut être très dérangeant, explique-t-il. Les enfants autistes pouvaient accéder rapidement au Père Noël sans passer par la file d'attente. Une initiative qui enchante Louise Bégin, mère de 3 enfants autistes. C'est la première fois qu'ils réussissent à y aller, explique-t-elle. Quant au Père Noël, il affirme avoir toujours la même approche. Je fais exactement ce que je fais avec tous les enfants, explique-t-il. Je prends mon temps, on va y aller avec ses conditions à lui. On va prendre le temps ensemble, il ne faut pas forcer rien, c'est juste ça le truc. Dans cybersoleil.com, une famille de Léry versera 1 000 par année pendant 25 ans à la Fondation du Collège Héritage de Châteauguay pour la remercier du soutien qu'elle a apporté à l'aîné Étienne Saint-Martin pendant ses études secondaires. Il y a 5 ans, ce garçon a été victime d'un grave accident à Mercier qui a coûté la vie à sa mère. La vie de la famille Saint-Martin a basculé le 20 février 2012. Ce jour-là, la voiture dans laquelle prenait place Julie Saint-Arnaud et son fils Étienne était immobilisée dans la voie centrale du boulevard Saint-Jean-Baptiste à Mercier, en vue d'effectuer un virage à gauche. Une voiture roulant à plus de 100 km à l'heure les a percutés, tuant la mère de 2 enfants sur le coup et blessant gravement le garçon de 13 ans. Le conducteur a été déclaré non criminellement responsable quelques mois plus tard. Stéphane Plante, alors directeur de niveau au Collège Héritage, a entrepris des démarches pour aider Étienne dans son retour à l'école. À l'époque, M. Plante a donc sollicité l'aide de la Fondation du Collège pour débloquer un montant permettant de payer un professeur privé à l'étudiant pendant plusieurs années. Ce coup de pouce a été apprécié par le père de famille, devenu veuf et monoparental du jour au lendemain. « À ce moment-là, je me le laissais guider. C'est vrai que je n'étais pas toute là », dit-il. 5 ans plus tard, lorsqu'il a réalisé que son fils recevrait son diplôme d'études secondaires, M. Saint-Martin a eu l'idée de redonner au suivant. « Ça me trottait dans la tête. Je me disais, il finit cette année. On a passé au travers. » Compte tenu de la gravité de l'accident, il s'en est vraiment sorti comme un champion, raconte Nicolas Saint-Martin. Après discussion avec Étienne, il a choisi d'annoncer son idée de donner 25 000 $ sur 25 ans lors de la collation des grades des élèves de juin. Le personnel enseignant, les élèves que les parents ont été très touchés, le personnel enseignant, les élèves ainsi que les parents ont été très touchés par ce geste. Je m'entretiens avec Suzanne Beaulieu, directrice de la gang à Rambrou. Bonjour, Mme Beaulieu.
Bonjour, Mme Denis.
Alors, on parle avec vous du fantôme de Cartierville, nom de Canterville,
oui.
dont les billets sont en prévente jusqu'au 15 décembre. Alors, qui est le fantôme de Cartierville?
Ah, là, c'est vraiment une bonne question. C'est inspiré de l'œuvre de Oscar Wilde.
Oui.
Et originellement, ça s'appelait le fantôme de Canterville. Et ensuite, nos participants, quand on leur a présenté le texte, spontanément, ils lisaient le fantôme de Cartierville.
D'ailleurs, sur votre poster, votre affiche, on peut lire le fantôme de Canterville. Il y a une rayure sur Canterville, puis
oui.
Ensuite, on continue avec de Cartierville.
Oui, voilà. Ouais. Parce que, ça faisait du sens parce que, dans le fond, c'est pas tout à fait l'œuvre d'Oscar Wilde. On s'en est beaucoup inspiré. Il y a même des répliques qui sont reprises mm-hmm. dans notre texte. L'histoire, c'est, dans le fond, Simon de Cartierville qui hante les murs de son manoir. Puis, il est justement accusé du meurtre de son épouse. Alors, il est roi et maître dans sa demeure et arrive une famille américaine excentrique puis qui, eux, sont très heureux de retrouver des fantômes dans leur manoir. C'est un plus pour eux.
Ah oui, alors quel est le ton de la pièce? Est-ce qu'on va avoir peur? Est-ce qu'on va rire?
On va rire. J'espère qu'on va rire.
Oui, c'est surtout une comédie.
Parce qu'il y a beaucoup d'humour. Mm-hmm. Nos gens s'amusent à faire les scènes. Il va y avoir des effets surprises aussi dans les scènes, parce que la scène, elle va être hantée, elle aussi. Il y a des fantômes qui vont habiter la scène puis qui vont se manifester à différents moments.
Et qui sont ces contributeurs, ces participants?
Nous avons 16 comédiens, danseurs, et 13 choristes et musiciens qui vont se partager la scène.
C'est une distribution?
Oui. Oui. Dans les 16 comédiens, il y a 2 bénévoles, des comédiens amateurs qui se sont joints à notre groupe. Nos personnes ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.
Mm-hmm. Et comment vous l'avez écrite la pièce « Le fantôme de Cartierville »
Bien, en démarrant avec le texte d'Oscar Wilde, on a été récupérer certaines scènes qui nous apparaissaient justifiées. On a rajouté les personnages aussi, parce que dans la pièce originale, il n'y a pas 16 personnages différents. On en a créé des nouveaux avec des histoires attachées à ces personnages-là. On a aussi été chercher des petits clins d'œil dans des films comme Beetlejuice et d'autres, Ghostbusters.
Mm-hmm. Et la pièce...
Le fantôme de l'opéra.
Ah oui, d'accord. Alors, on s'ennuiera pas certainement. La pièce est présentée pas tout de suite. Là. C'est pas dans le temps des fêtes, c'est au mois de juin, mais on en parle aujourd'hui parce qu'on peut acheter des billets en pré-vente jusqu'au 15 décembre, c'est ça?
Oui, c'est ça. Dans le fond, ça peut être un beau cadeau de Noël.
Oui, tout à fait.
Fait que c'est un peu dans cet esprit-là aussi qu'on le fait. On a aussi une équipe de 28 participants qui sont au programme L'Arrière 5, qui vont fabriquer les décors qui vont être assez majestueux comme décors.
Ah oui, alors c'est toute une équipe qui travaille pour la réalisation de ce projet-là.
Oui, l'équipe, on est 2 auteurs qui travaillons les scènes. Puis il y a aussi un chercheur à l'Université Jean Orvet qui nous aide aussi dans la mise en scène.
Les 2 auteurs sont vous, Suzanne Beaulieu, c'est ça?
Oui, et Abdel Latif Roujdi.
D'accord.
Abdel est un étudiant en sciences politiques à l'UQAM, mm-hmm. qui s'intéresse aussi au théâtre et à notre clientèle.
Et où vous en êtes dans le processus de création?
Il nous reste la dernière scène à écrire. On a l'histoire, on a le concept, mais on ne l'a pas encore tout à fait terminé. Les chanteurs, eux, sont en train de travailler des pièces musicales à intégrer tout au long de la pièce, en lien avec ce qu'on va faire.
Mm-hmm. Vous allez commencer à répéter quand?
Nous avons commencé.
Ah oui,
en
c'est
septembre.
Commencé.
Oui.
Ah oui,
depuis septembre. Les gens sont, ils ont, à chaque année, ils me surprennent parce que ça va de plus en plus vite dans la façon d'apprendre les textes.
Mm-hmm. Ils sont de plus en plus professionnels.
Oui, et puis plusieurs d'entre eux. Puis cette année, on a voulu utiliser la pièce du fantôme de Canterville parce que c'était amusant. Puis on voulait aussi développer chez eux un plus grand jeu théâtral, parce qu'ils vont avoir des contacts physiques. Et il y a des émotions sur scène. Ils vont devoir avoir peur, rire, pleurer, jouer des tours.
Tout ce qu'un comédien doit savoir faire, finalement. Oui.
Oui. Alors, cette année, on a voulu plus donner cette formation-là à nos participants.
Ah, mais c'est vraiment intéressant. C'est à la Maison de la Culture Mercier, donc les dates, est-ce que vous pouvez nous les donner?
Le 16 et 17 décembre. Le 16 et 17.
Oui, juin.
Juin, oui. Le samedi, c'est à 19h et le dimanche à 13h30.
D'accord. Le prix de vente, c'est 20$, mais si on achète d'ici le 15 décembre des billets, ça
c'est
peut nous coûter 15$ pour tout le monde.
Si on est un groupe, si on forme un groupe, ça, à ce moment-là, le prix descend à 10$. C'est pour un groupe de 10 personnes et plus.
Bon, alors, je rappelle la mission de la gang à Rambrou, c'est de permettre la participation sociale, l'intégration, l'inclusion des personnes ayant un handicap intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme, en offrant à sa clientèle la possibilité d'accroître leurs habiletés sociales, de développer des compétences et, sur un plan personnel, d'augmenter leur estime de soi, savoir s'exprimer et exercer ses droits. Vous faites tout ça en montant, entre autres, cette pièce, Le fantôme de Cartierville. Un grand merci, puis bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose?
Oui, en quelques secondes.
La pièce est aussi, à la Maison de la Culture Mercier, on profite aussi de l'occasion pour faire l'exposition de nos artistes en art visuel.
Ah, bien, on ira faire un tour.
D'accord, vous êtes bienvenue.
Suzanne Beaulieu, directrice de la gang à Rambrou, l'exposition, c'est en cours maintenant jusqu'à...
Non, bien, ça va être au mois de juin, en même temps que la pièce.
Ah oui, d'accord, au mois de juin. Parfait. Oui. Merci, Mme Beaulieu.
D'accord, bonne journée.
Vous aussi. Théo et son école secondaire relèvent les défis de l'accessibilité. C'est sur le site de Radio-Canada. Le collège Louis Riel à Winnipeg sera-t-il prêt à accueillir son prochain élève à mobilité réduite? La division scolaire franco-manitobaine affirme que oui, malgré la liste des travaux nécessaires pour rendre l'école accessible. Théo Roy, 12 ans, est un élève de 7e année à l'école Précieux 100 à Winnipeg. Il prépare déjà son passage au secondaire au collège Louis Riel, où il fera sa rentrée dans un an et demi. Le jeune garçon est atteint d'une condition neuromusculaire qui affecte principalement ses jambes et il se déplace en fauteuil roulant. À l'école, note son père, Daniel Roy, ça a été un défi depuis le début juste pour avoir les choses de base, comme les bars dans les salles de bain, des espaces accessibles. C'est souvent que les bâtisses ont été construites à une époque où ce n'était pas dans les priorités et les codes de construction. Au fur et à mesure, en réaction aux défis qui se dressaient sur le chemin de Théo, des changements ont été apportés dans son environnement. Mais sa famille s'inquiétait de voir que sa prochaine école ne serait peut-être pas prête pour lui. Une récente rencontre avec la division scolaire franco-manitobaine a permis de les rassurer. Le secrétaire trésorier de la division scolaire, Serge Bisson, indique que la division scolaire a entamé une évaluation de l'accessibilité de toutes ses écoles pour déterminer où des travaux sont nécessaires. Le collège Louis Riel est l'un des premiers établissements à avoir été identifié pour ses travaux d'aménagement. Serge Bisson indique que les travaux ont déjà commencé et affirme que tout sera terminé d'ici septembre 2019 à temps pour accueillir Théo. J'avais annoncé une nouvelle concernant Airbus qui soutient l'emploi de personnes en situation de handicap. Je vous en reparle demain, promis, parce que l'émission tire à sa fin. Un grand merci à mes invités. D'aujourd'hui, de ce 12 décembre 2017, Suzanne Beaulieu, directrice de la gang à Rambrou, et aussi Madame Dora Julie, agronome et entrepreneuse. Merci à mon équipe, à la recherche Anne-Laure Janson et à la technique Maurice Bolduc. Merci à vous d'avoir été présents et à l'écoute. Ici Hélène Denis, bonne journée, on se retrouve demain.